le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce programme des deux radios partenaires que sont BBC Afrique et Africa Radio. Liliane Niacha, bonjour à vous.
Bonjour Saint-Ish, c'est un plaisir de retrouver nos auditeurs et vous également pour cette autre édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. En ouverture, la RDC, Jean Mabunda, destitué de la présidence de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba sera-t-il le prochain? Le président Tshisekedi est manifestement en train de réussir la mise en place de la nouvelle majorité qu'il souhaite. Pour autant, le bras de fer avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila est-il terminé?
Alors Liliane, le camp Tshisekedi a remporté une manche, mais en face, le camp Kabili n'en démord pas. Il dénonce des décisions anticonstitutionnelles, notamment la nomination imminente d'un informateur. Quelle sera la riposte du FCC de Joseph Kabila, esselé à l'Assemblée nationale, certes, mais qui détient toujours le Sénat et d'autres institutions non moins importantes? Le débat à suivre.
L'opposition ivoirienne renonce au Conseil national de transition, appelle à un dialogue national, mais conteste toujours la réélection d'Alassane Ouattara. Cette nouvelle stratégie de l'opposition donnera-t-elle plus de résultats à Saint-Ish?
La dernière sortie d'Henri Konan Bédié à quelques jours de l'investiture d'Alassane Ouattara est qualifiée de tentative désespérée par le RHDP, son parti. Et si aucune des propositions de Bédié ne semble trouver écho pour l'heure, les autorités ivoiriennes ont quand même délivré à Laurent Gbagbo ses passeports, un geste d'apaisement, disent-elles. Comment l'opposition ivoirienne peut-elle se faire entendre avant le prochain round politique, à savoir les élections législatives? Nous en débattrons, Liliane.
Les députés français ont ratifié cette semaine l'accord de coopération qui acte la transformation du CFA en écho. Quelle sera la suite dans le processus très critiqué de création de la nouvelle monnaie ouest-africaine?
Alors que les pays de l'UEMOA ont opté pour une approche graduelle, la France, elle, déroule son calendrier dans le dossier de création de l'écho. Comment évolue donc le processus de création de cette monnaie du côté des premiers concernés que sont les pays de l'UEMOA? Nous en débattrons avec notre grand témoin ainsi que nos invités, Liliane, notre panel que nous découvrons avec vous.
Et notre grand témoin cette semaine est Nehemi Moulania Wilonja, ancien directeur de cabinet de l'ancien président Joseph Kabila est coordonnateur du FCC, le Front commun pour le changement en RDC. Deux journalistes sont avec nous, le journaliste ivoirien Guillaume Bateau, journaliste politique au quotidien Notre Voix, proche du FPI en Côte d'Ivoire. Il est en ligne d'Abidjan et en ligne de Dakar au Sénégal. El Hadj Mansour Samb, qui est plutôt économiste sénégalais et auteur de l'ouvrage Les limites du plan Sénégal émergent, PSE, lancé par Macky Sall. Saint-Ish, avant de vous passer la parole, je voudrais demander à M. Nehemi Moulania, notre invité. Vous m'entendez, M. Wilonja?
Absolument.
Vous avez été souvent présenté comme le vice-président de Joseph Kabila et comme un homme plutôt dur. Est-ce que vous en êtes flatté ou plutôt embarrassé?
Très embarrassé, évidemment, parce que je ne sais pas à quelle réalité cela fait allusion, évidemment.
Merci beaucoup pour votre réponse. Saint-Ish, avec vous, le premier sujet.
Le premier sujet, c'est la RDC. Une longue plénière, une salle survoltée, et puis les mots de Jeannine Mabunda qui n'auront pas convaincu ses pairs. C'est un peu la scène à laquelle on a assisté à l'Assemblée nationale de la RDC ce 10 décembre. La désormais ex-présidente de l'Assemblée nationale a été destituée avec 281 voix sur 483 votants. Le camp du président Félix Tshisekedi se réjouit bien sûr d'une victoire éclatante. En témoignent les scènes de liesse au sein du Parlement après le vote. La destitution de Jeannine Mabunda, une proche de l'ex-président Joseph Kabila, n'est qu'une étape vers la conquête de la majorité parlementaire indispensable au camp Tshisekedi pour enfin constituer un gouvernement qui, l'espère, lui permettra de mettre en œuvre sa vision. Et le Parti du Peuple pour la reconstitution de la démocratie, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, a reconnu la défaite du FCC et a déclaré sur son compte Twitter: courage camarades, on ne gagne pas à tous les coups, redressons nos têtes rapidement. Même appel à la mobilisation aussi du côté du FCC. Que vous coordonnez justement, M. Wilonja, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que la majorité FCC que vous estimiez à plus de 300 députés sur les 500, n'a pas pu faire échouer la destitution de Mme Abunda. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Laissez-moi d'abord rendre hommage à cette grande dame qui fait l'honneur de l'Afrique, Jeanine Mabunda. C'est une référence aujourd'hui de par son profil, mais aussi son background. Et comment ne pas saluer son passage brillant à l'Assemblée nationale et qui faisait douter, bien sûr, d'aucun sur la possibilité de cette déchéance. Pourquoi ? Parce que elle a non seulement imprimé un rythme qu'il fallait à cette Assemblée nationale, mais également de la moderniser.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, M. Moulanga ?
Ce qui s'est passé, c'est seulement la politique politicienne, c'est seulement ce jeu de règlement de comptes que rien ne pouvait justifier. Mais bon, comme vous le savez, c'est une question d'organisation interne de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur lui-même a prévu un mécanisme d'évaluation. Ça signifie qu'à un certain moment, soit les députés eux-mêmes peuvent, pour plusieurs raisons, créer des convergences positives ou négatives qui peuvent avoir de l'influence sur leur représentation au niveau du bureau.
Certains députés qui étaient à la séance ce 10 décembre l'ont clairement dit, après la présidente de l'Assemblée nationale, cap sur les regards sont tournés vers le gouvernement issu de cette majorité. Est-ce que c'est votre crainte actuellement, la destitution du gouvernement ?
Écoutez, c'est plutôt un regret parce qu'on est en pleine manœuvre politicienne, c'est-à-dire que tout cela est artificiel. Le camp Tshisekedi, pour votre édification, n'a que 47 députés. Et si vous allez plus loin et vous avez l'opposition, il revendique, n'est-ce pas, une centaine de députés. Et donc la dispensation politique issue des élections de 2018 confère bel et bien la majorité parlementaire autour de 315 députés au FCC. Et cette majorité s'est traduite par, n'est-ce pas, les groupes parlementaires qui sont majoritairement FCC, qui soutiennent le gouvernement. On a eu le vote du budget, c'est quand même un programme annuel chiffré du gouvernement qui a été largement voté par cette majorité-là. Et donc, rien de rationnel ne peut expliquer effectivement ce qui s'est passé hier, sinon que lorsqu'on se retrouve en face d'un vote sur des personnes et qui est à butin secret, évidemment, toutes les irrationalités s'expriment. Voilà pourquoi c'est trop superficiel. Nous attendons ce débat autour des réformes. Et c'est à ce moment-là qu'on saura, n'est-ce pas, si réellement, autour des questions structurelles comme ça, la majorité ne soutient plus les programmes pour lesquels elle a été élue ou pas.
Monsieur Moulanga, encore un mot sur la destitution de Mme Jeanine Mabunda de la présidence de l'Assemblée nationale. Certains Congolais disent que le FCC a joué et perdu. Qu'est-ce que vous répondez ? Peut-être que je vous fais trois propositions. Est-ce que vous leur dites « oui, nous avons perdu, on passe à autre chose » ou plutôt « non, la bataille ne fait que commencer » ou enfin, troisième option, « nous avons perdu une manche, mais pas la guerre ».
Écoutez, je dirais plutôt que nous avons perdu une manche, mais pas la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le combat du FCC, c'est un combat pour les valeurs. Madame, on vient de quitter des élections il y a 2 ans. Je viens de le dire que l'article 5 de notre Constitution est clair. La souveraineté populaire appartient, nationale appartient au peuple congolais.
D'accord.
Et le peuple congolais l'exerce.
Vous l'avez longuement dit, M. Ulania. Alors, comment préparez-vous la riposte ? Comment est-ce que vous préparez la riposte ? Au moment où nous enregistrons, le président Kabila est arrivé à Kolwezi. Est-ce que il va peut-être enfin dérouler la riposte du FCC, peut-être aussi répondre ou donner sa part de vérité sur la rupture avec le cash, comme indiqué par un communiqué du FCC au lendemain du discours du président Tshisekedi?
D'abord, nous ne voyons pas les choses en termes de confrontation ni en termes d'antagonisme. Nous voyons des choses en termes de défense des valeurs. Les valeurs de respect de la légalité, mais également les valeurs de la promotion de la démocratie, tous ces acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus. Et donc, ne vous attendez pas à ce que nous nous inscrivions notre action en termes de confrontation stérile. Non, le FCC...
Quelle sera donc votre réponse? Comment est-ce que s'organise la riposte au sein du FCC? Est-ce qu'elle commence avec le voyage du président, ce que vous appelez votre autorité morale, vendredi à Kolwezi?
Nous avions dit que notre réponse allait être aussi bien politique que juridique, là où il est faux. Et je crois que là, vous avez une première expression, mais il y en aura bien d'autres. Mais j'insiste sur le fait que nous ne pouvons pas laisser liquider, n'est-ce pas, ces acquis démocratique de plusieurs années. Et donc, c'est ça le fil conducteur de tout ce que nous allons faire.
Quel est l'agenda du président Kabila à Kolwezi? Est-ce que vous pouvez être précis, s'il vous plaît?
Oui, son agenda, il va chez lui. C'est un Congolais qui jouit de toute sa liberté, de mouvement. Il va chez lui, il se repose, mais également, il va contribuer certainement à travers des et à l'essor de cette province, qui est un essor qui est déjà visible. C'est quelqu'un qui est amoureux du développement, donc il ne manquera pas d'apporter ses idées au gouverneur de province sur la manière de promouvoir davantage le développement de cette province.
Autrement dit, on ne doit pas s'attendre à ce que l'ex-président Kabila parle.
En tout cas, s'il doit parler, il le fera au moment opportun. Moi, je pense que la soif, elle est là, bien sûr, parce qu'il est sous la réserve depuis près de 2 ans. Mais c'est un homme qui ne parle que lorsque le silence n'est pas assez audible.
Mais c'est vous-même, au sein de votre famille politique, qui lui avez demandé de donner sa part de vérité. Voilà bientôt une semaine, on ne l'a pas entendu.
Absolument, c'était une demande de ses militants, de ses cadres, mais c'est à lui de choisir et l'opportunité et le temps idéal, n'est-ce pas, pour s'exprimer. Encore une fois, je l'ai dit, s'il doit le faire, ça devrait être pour l'édification de l'opinion nationale et internationale, nullement dans une perspective de confrontation. C'est un homme qui est c'est un homme d'État.
Merci.
Et donc, il a un héritage et il compte le préserver.
Alors,
cet héritage, c'est un état de stabilité et de paix.
Monsieur le coordonnateur du FCC, vous semblez dire que la bataille n'est pas terminée. Vous l'avez dit clairement, d'ailleurs, que la bataille n'est pas terminée. Mais aujourd'hui, parlons de cette possible destitution du gouvernement dont est issu de la majorité parlementaire. Vous n'avez vraiment aucune crainte que cette majorité, on va dire, qui s'est illustrée hier et qui a permis la destitution de la présidente Mahmouda, vous n'avez aucune crainte que cette majorité puisse se reconstituer encore et demander la destitution du gouvernement de M. Ilunga?
Ce qui est certain, c'est que le poulain du président Tshisekedi et l'opposition, en fait, ces regroupements contre nature, finalement, n'est-ce pas, n'ont réussi cela qu'avec l'aide de quelques-uns de nos députés. Et donc, c'est notre responsabilité plutôt de rester à l'écoute de ces députés.
Mais donc, vous avouez qu'il y a effritement de votre camp, il y a effritement au sein du FCC?
Nullement, parce que certainement qu'ils avaient quelques raisons pour lesquelles, dans les cas d'espèce, n'est-ce pas, ils ont fait des convergences avec des camps opposés. Mais ils demeurent nos députés. Nous resterons à leur écoute pour voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, leurs préoccupations peuvent être prises en compte. C'est pourquoi j'ai dit ne tirez pas de conclusions hâtives par rapport à ce qui s'est passé hier.
Monsieur Wilondja, un de vos camarades, vous avez dit la bataille n'est pas terminée, mais un de vos camarades cadres du PPRD, en l'occurrence Patrick Kanga, a appelé à des changements au sein du parti et de la plateforme FCC. Est-ce que ce n'est pas un aveu, une reconnaissance de ce qu'il y a eu des erreurs, peut-être de stratégie, au cours de cette alliance avec la coalition CASH?
Évidemment, on ne peut rater aucune occasion pour faire une évaluation et opérer des changements qualitatifs. J'en appelle aussi à cette lucidité pour voir là où il est nécessaire d'apporter des ajustements, et c'est à tous les niveaux de le faire. Et je crois que nous
Quels sont les ajustements qui vont être faits au sein du FCC? Quelles erreurs admettez-vous ou reconnaissez-vous peut-être avoir commises lors de cette alliance? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez dû faire autrement, puisque c'est le blocage et la paralysie de l'État qui a conduit à cette rupture aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait selon vous?
Non, je pense qu'au cœur du problème, il y a le respect d'avoir des engagements et le respect de la loi fondamentale du pays. C'est ce qui est au cœur de la problématique, n'est-ce pas, de divergence entre le FCC et le CASH. Il n'y a pas plus. Par contre, en interne, au sein du FCC, il faut savoir que le FCC, c'est une construction qui était dans un processus. Là, nous apprêtions pratiquement à lancer toutes les structures, la désignation donc des animateurs de toutes les structures. Et cela sera pour bientôt. Et avec cela, c'est la grande reconquête qui commence à tous les niveaux. Et par rapport à l'agenda 2023.
Excusez-moi, vous parlez de perspective, Monsieur Wilondja. Ma question était sur ce que vous avez fait jusque-là, le bilan entre la somme de ce que vous pensez avoir bien fait ou mal fait. Qu'est-ce que vous admettez comme erreur, en quelques mots, s'il vous plaît?
Non, mais ce qui a été fait, c'est d'abord, nous avons doté ce pays des institutions. Nous sortions des élections en 2018, nous avons rendu possible l'alternance pacifique et nous avons donné corps à cette alternance en installant toutes les institutions. Maintenant, dans les fonctionnements de ces institutions, si un accord de coalition n'est pas respecté, c'est de la responsabilité de celui qui ne la respecte pas. Si la Constitution, qui est le fondement sur lequel est bâti l'accord de coalition, lui-même n'est pas respecté, c'est de la responsabilité de celui qui ne le fait pas. Et c'est pourquoi je dis, même ce qui se passe aujourd'hui au Parlement n'est que la conséquence d'une démarche tente, n'est-ce pas, à pouvoir remettre en cause des acquis qui étaient plutôt prometteurs.
Mais monsieur Moulagna, ces acquis dont vous parlez, que vous revendiquez, ces acquis démocratiques, certes, mais qui, dans le fonctionnement pratique, ne permettait pas de régler les problèmes des Congolais. C'est un peu cela ce que le camp Tshisekedi semble vous reprocher, c'est que dans la pratique, vous ne permettiez pas de mettre en œuvre sa vision et donc de régler les problèmes des Congolais.
Mais c'est une diversion, madame, parce que le camp Tshisekedi a géré seul le pays l'essentiel de l'année 2019 avec les moyens que nous avons laissés. Plus d'un milliard, 500 millions de dollars, avec son propre programme et ses propres exécutants. Et vous savez que cela s'est soldé par un
procès. Vous ne reconnaissez pas qu'il y avait un blocus, qu'il y a un blocus dans les institutions, dans la gestion des affaires?
Oui, s'il y a un blocus, maintenant, comment on est arrivé justement à doter les pays du budget et à le faire fonctionner avec son gouvernement au cours de toute l'année 2020. Moi, je pense qu'il y a eu plutôt l'ambition, l'envie d'accroître davantage les champs du pouvoir du président de la République. Et
merci.
Tout cela remettait en cause, n'est-ce pas, et l'accord et la constitution du pays. C'est ça la vraie problématique.
Merci beaucoup, Liliane. Je pense que nous allons prendre la pause qui s'impose.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et c'est avec notre invité, Monsieur Nehemi Moulania Wilonja, ancien directeur du cabinet de l'ex-président Joseph Kabila et coordonnateur du FCC, le Front commun pour le changement en République démocratique du Congo. Le journaliste ivoirien Guillaume Bateau, et qui est à Notre Voix, qui travaille pour Notre Voix, proche du FPI, est en ligne d'Abidjan. El Hadj Mansour Samb, économiste sénégalais, est en ligne de Dakar. Vous pouvez écouter cette émission sur africaradio.com ou bbcafrique.com et nous faire part de vos réactions sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Et Saint-Tich, je voulais vous donner la parole plus tôt pour dire qu'on va peut-être écouter notre confrère d'Abidjan, Guillaume Bateau, sur ce divorce entre CACH FCC et qui a entraîné cette semaine à la destitution plutôt bruyante de la présidente de l'Assemblée nationale, Guillaume.
Je suis inquiet de ce divorce. Parce que, à titre personnel, j'avais salué la sagesse du président Tshisekedi, qui avait réussi cette coalition avec l'ancien président Joseph Kabila. Et cela me semblait être un bon gage de stabilité pour la RDC, ce grand pays que nous emmène tous, et qui peut être un fer de lance de la renaissance africaine. Malheureusement, j'ai bien écouté le coordinateur du FCC, et Je trouve que c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on en vienne là et que les deux partenaires ne s'asseyent pas vraiment pour discuter, pour régler les problèmes de fond. Quand on écoute un peu les uns et les autres, le président Tshisekedi et ses partisans parlent de blocage dans leur volonté de réformer le Congo, ce qui est un souhait partagé par tous les progressistes africains. Vous avez entendu le représentant du FCC dire que c'est le non-respect des engagements et la volonté d'étendre le pouvoir du président Tshisekedi qui crée cette situation. Moi, à titre personnel, je serais pour un dialogue entre ces deux parties parce que, comme vous l'avez écouté, le président Tshisekedi a une faible minorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai. On peut s'allier aujourd'hui avec des gens de circonstances pour essayer de trouver une majorité. Mais je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. De mon point de vue, il est bon. Le Congo a besoin aujourd'hui, la RDC a besoin aujourd'hui d'une forte majorité, d'une stabilité qui puisse permettre au pays d'oublier les difficultés du passé. Ces derniers jours, les bagarres à l'Assemblée nationale et la décision de la présidence de l'Assemblée nationale, tout ça n'augure rien de bon pour le Congo. Et j'en suis vraiment désolé.
Merci. Ça ne règle pas le problème, d'après vous. Mansour, en quelques mots, s'il vous plaît.
Il y a le camp de l'ancien président Kabila qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il gère le Parlement et il y a Tshisekedi qui gère l'exécutif. Aujourd'hui, il faut vraiment une coopération entre ces deux entités. Parce que le Congo a trop subi. Le Congo a beaucoup d'urgence. Le Congo a des problèmes au niveau de l'éducation, il faut couvrir tous les pays au niveau de la santé, il y a des problèmes. Donc je pense que c'est le moment de coopérer, c'est le moment de trouver des points de vue ensemble pour vraiment relancer le Congo et au-delà du Congo, relancer l'Afrique.
Saint-Tich ?
Oui, M. Moulaya, vous l'avez entendu, que ce soit notre confrère Guillaume ou alors M. Mansour, écrivain et économiste, chacun plaide pour que le FCC et le CACH puissent s'asseoir, dialoguer. Mais au stade où nous sommes aujourd'hui, est-ce que vos points de vue, vos divergences peuvent encore trouver des points de convergence?
Bien, écoutez, moi je pense qu'il n'y avait rien d'irrévocable. Nous-mêmes, nous avons dans notre déclaration déclaré que nous étions tout à fait ouverts au dialogue avec le président Tshisekedi parce que nous croyons que cet accord, nous l'avons signé, et ce sont des mots du président Tshisekedi lui-même, sains d'esprit et de corps. Pourquoi ? C'est quand même pour la première fois que les pays viennent de connaître cette expérience. Nous avons un président qui entre en fonction, un autre qui sort, et la passation pacifique est là. Mais il faut donner la chance à cet accord de pouvoir réellement projeter le pays dans la stabilité, le développement et la paix. Et c'est ça l'intitulé de l'accord de coalition.
Mais alors, dites-nous, qu'est-ce que le FCC pourrait concéder pour que vous puissiez revenir, on va dire, à de meilleurs sentiments, que le FCC et le CASH puissent s'entendre et peut-être élaborer un autre plan dans le futur? Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez consentir?
La grande concession que le FCC c'est autour des réformes. C'est de se mettre d'accord sur les réformes à implémenter. Parce que c'est avec ces réformes qu'on peut faire avancer le pays. Parce que des questions de partage de pouvoir, de responsabilité étaient déjà réglées dans l'accord. Or, ce sont ces questions que le président Tshisekedi et ses partisans ont remis sur la table. Et même alors, la porte n'était pas totalement fermée. Et donc, je pense que pour si peu, on ne peut pas laisser la voie qui garantit la stabilité pour aller vers une démarche totalement politicienne et à des gains de court terme. C'est ça la problématique.
Merci. Monsieur Wilandia, oui, s'il vous plaît, permettez, le temps est quasiment épuisé, mais je souhaite vous poser ces deux questions avec des réponses très courtes. Est-ce que le bloc FCC va survivre à cette désaffection observée dans ses rangs, avec déjà la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale? Deuxième question, on a suivi la société civile se réjouir de la fin de la coalition CASH-FCC. Il est possible que ensemble de Katumbi et de le MLC de Jean-Pierre Bemba entrent au gouvernement, en tout cas quand on écoute leur leader, les commentaires de leur leader sur ce divorce. Est-ce que vous ne craignez pas finalement d'être isolé sur la scène politique congolaise?
Mais je crois qu'on doit être isolé par rapport à l'agenda. Hein, si vous pensez que nous serons isolés par rapport à un agenda de manœuvre politicienne tendant à déformer une dispensation politique issue des urnes, peut-être avoir raison, mais qu'est-ce que cela va rapporter au pays? C'est ça la question. Parce que nous croyons, nous, que la vraie dispensation politique qui consistait à attribuer au CASH la présidence de la République et au FCC la majorité parlementaire, c'est cette dispensation qui est la garante de la stabilité, de la paix et du développement du pays.
Merci. Et sur la survie du bloc FCC, s'il vous plaît, très rapidement.
La survie du bloc FCC est évidente. Écoutez, prenez même les résultats d'hier. Il y a trois grands blocs ou plateformes dans ce pays. Vous avez le CASH qui a 47 députés. Vous avez la MUCA qui a une centaine de députés. Mais il n'y a que le FCC qui hier a démontré qu'il pouvait avoir 230 députés. Donc même si on veut faire les raccourcis, et la majorité flotte, mais le FCC est toujours majoritaire. Comment vous pouvez Merci. Écarter le FCC de la main? C'est impossible.
Merci
C'est
beaucoup.
Ce qui fait dire que à court terme, mais qui ne sont pas nullement au profit des Congolaises.
Merci beaucoup, M. Lagnas. Saint-Tich, on marque une pause au pas de course et on revient pour le deuxième sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et nous recevons Nehemi Mulania Wilandia, ancien directeur de cabinet de l'ex-président congolais Joseph Kabila et coordonnateur du Front commun pour le changement FCC en RDC. Guillaume Bateau est journaliste politique au quotidien Notre Voix en Côte d'Ivoire et El Hadj Mansour Samb, économiste sénégalais et auteur de l'ouvrage Les limites du plan Sénégal émergent. Direction la Côte d'Ivoire où les propos du chef de l'opposition en Henri Konan Bédié mettent en colère le pouvoir alors que les Ivoiriens n'ont toujours pas vu s'ouvrir le dialogue entre pouvoir et opposition. Un mois après la rencontre à la Ouattara Bédié à l'hôtel du Golfe, au plus fort de la tension post-électorale, eh bien, on assiste aujourd'hui à une nouvelle poussée de fièvre entre les acteurs politiques. Mercredi, le leader du PDCI, l'ancien président Bédié, a demandé un dialogue national encadré par les institutions internationales et incluant toutes les forces vives de la nation pour résoudre les tensions nées de la présidentielle dont il conteste toujours les résultats. Selon lui, Alassane Ouattara n'est pas légitime et il demande aussi l'organisation d'élections, notamment présidentielles, transparentes et inclusives. Réponse du RHDP par la voix de son porte-parole, c'est de la provocation de trop de la part d'un homme politique qui refuse obstinément de se laisser rattraper par la sagesse et la raison. Je commence avec vous, Guillaume, qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que ces propos peuvent être considérés comme un dernier avertissement de la part du pouvoir avant une possible arrestation de Bédié?
Non, en Côte d'Ivoire, personne n'imagine que le pouvoir va arrêter le président Henri Konan Bédié. Je vous rappelle que le 3 novembre, ils ont bien essayé de l'arrêter, ils ont vite compris que ce serait la goutte d'eau qui aurait pu faire déborder le vase.
Mais quand Étienne Adjumani, porte-parole du RHDP, dit que c'est la provocation de trop d'un homme politique qui refuse obstinément de se laisser rattraper par la sagesse en dépit de la large tolérance dont font preuve les autorités devant ces récurrents forfaits. Ça, c'est le porte-parole adjoint qui le dit du RHDP. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que peut-être Bédié a franchi la ligne rouge?
La personne qui n'est pas sage en Côte d'Ivoire, c'est M. Adjumani. Je crois que j'ai lu la déclaration du président Bédié. Elle devait être saluée par tous les Ivoiriens désireux de voir notre pays sortir de crise à l'emploi fini et d'aborder une discussion qui puisse permettre véritablement de faire baisser la tension, de faire partir notre pays du bon pied. Parce que quand M. Adjumani parle de l'absence de salaire du président Bédié, qu'est-ce qu'il aurait souhaité? Qu'il aurait souhaité que le président Bédié continue de maintenir le Conseil national de transition, que le président Bédié continue d'appeler à des manifestations partout en Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas en août, en septembre et en octobre, avec près de 200 morts en Côte d'Ivoire.
Non, 85 officiellement.
85 pour la période électorale, mais avant la période électorale, la période préélectorale, je vous rappelle que dès la décision du président Ouattara de se porter candidat le 7 août 2020, les manifestations ont commencé. Donc les calculs qui sont faits, le gouvernement parle de 85 morts, mais pour la période juste après les élections. Mais avant, il y a eu des manifestations à Dabou, à Divo, à Bonoua, un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le bon sens voudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que le président Ouattara prenne les dispositions utiles, notamment pour libérer les prisonniers politiques, pour essayer de calmer la tension et puis de discuter sincèrement. Notre pays traverse une crise profonde, d'abord qui dure depuis des dizaines d'années, mais qui s'est exacerbée. On avait souhaité vraiment tourner la page des crises en 2020. Malheureusement, cette candidature à un troisième mandat du président de la République, a remis le feu aux poutres.
Et aujourd'hui, Guillaume, permettez que je vous pose cette question. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié parle au nom du PDCI ou il parle au nom de la plateforme de l'opposition qui conteste ce troisième mandat du président Ouattara?
Henri Konan Bédié aujourd'hui parle au nom de toute l'opposition. Toute l'opposition, c'est au moins 6 plateformes. Y compris des acteurs de la société civile. Je vous rappelle que des acteurs importants de la société civile, comme Mme Plucherik Ballet, sont en prison, avec beaucoup d'autres leaders.
Vous voulez dire que cette plateforme de l'opposition qui s'est formée avant cette élection présidentielle contestée, elle est toujours d'actualité?
Absolument. absolument. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est tous les jours que le président Bédié reçoit les leaders de l'opposition, de la société civile, tous ceux qui sont engagés avec lui pour contester le troisième mandat du président Alassane Ouattara, pour exiger la libération des prisonniers politiques, la réforme de la commission électorale indépendante, pour exiger le retour des exilés, à savoir donc le président Gbagbo, le premier ministre Soro et le ministre Charles Blé Goudé. C'est toute cette opposition aujourd'hui qui est soudée derrière le président Bédié. Et quand vous lisez son texte, il le dit, il parle au nom de tout cela. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'il propose un dialogue national inclusif en lieu et place d'un tête-à-tête entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Donc, le mieux, si on aime vraiment ce pays qui a beaucoup souffert des crises politiques depuis près de 30 ans, c'est de créer les conditions. Parce que si le RHDP pense qu'il faut continuer la tête dans le guidon, bien entendu, ce serait dommage pour notre pays et on ne pourra pas garantir une stabilité.
Alors, une dernière question, Liliane, si vous permettez, une dernière question à Guillaume avant de vous remettre la parole. Quand le président Bédié parle du CNT comme étant une proposition, alors que cette institution, enfin, ce Conseil national de transition, l'opposition entre-temps l'avait créé de façon formelle, aujourd'hui on en parle comme d'une proposition, est-ce que cette opposition justement n'est pas en train de capituler ou de se résigner ou de faire marche arrière dans sa lutte?
Non, mais vous savez, le président Bédié a la chance d'être un dinosaure de la politique ivoirienne. Déjà, à peine 30 ans, le président Bédié était déjà dans les instances nationales. Il connaît, il a été chef d'État. Mais avant d'être chef d'État, il a été ambassadeur, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Et il a connu 86 ans, le président Bédié. Il n'a pas 15 ans, il n'a pas 20 ans. Donc, il connaît la situation. Il sait que le CNT avait été une idée pour vraiment amener le président Ouattara à discuter. Bon, ça n'a pas pu être possible. Il a beaucoup de collaborateurs qui sont en prison. Lui-même, il voit que les tensions ethniques étaient très exacerbées dans sa région, à Daoukro notamment. Donc, il ne peut pas voir et continuer cette situation. Je pense qu'en appelant à un dialogue en lieu et place du CNT, il fait preuve de réalisme. Et il se dit aussi qu'il faut donner une chance à la paix en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, aucun Ivoirien sérieux ne peut nous dire que c'est le CNT ou la posture actuelle du RHDP qui va faire sur la crise.
Merci,
les
Guillaume.
Deux parties sont obligées de faire des concessions. Donc le président Bédié a fait une première concession majeure. J'espère, à lieu parce que le ministre Adjumani dit qu'il n'a rien avec la réalité, le RHDP ne peut pas continuer de faire comme si de rien n'était en Côte d'Ivoire.
Merci Guillaume. On va revenir à vous tout à l'heure. Le temps d'écouter notre invité. Monsieur Wilondia, c'est aussi une crise importante en Côte d'Ivoire. Comment réagissez-vous à ce rebondissement, à cet appel au dialogue national lancé par le chef de l'opposition, Bédié, et la réponse du pouvoir à cet appel?
Écoutez, d'abord, la RDC et la Côte d'Ivoire ont des similitudes troublantes, hein, du point de vue politique. Ce sont des pays qui ont connu effectivement des crises politiques à répétition. Ce sont des pays qui ont connu des transitions politiques, alternance politique, à la différence que là-bas, on a connu une alternance stagiste, alors qu'ici, c'est. Et donc, de ce point de vue, nous, notre mode opératoire a toujours été le dialogue. On a réglé 90% de ce pays.
Oui, mais voilà, le chef de l'opposition appelle au dialogue. Le pouvoir répond en disant que c'est de la provocation. Donc, on ne peut pas imaginer que dans un bref délai, dans un court, une courte échéance, il pourrait avoir ce dialogue sous la conduite de la communauté internationale, comme le souhaite l'opposition.
Non, je pense que même le président Ouattara, lorsqu'il a reçu le président Bédié, c'était déjà un premier point et un premier pas dans la direction de ce dialogue-là. La forme, je crois que les deux parties, et c'est ça notre exhortation, peuvent poursuivre cet élan du dialogue en décidant finalement de la forme qu'il faut. Donc, on ne peut pas rejeter le dialogue dans ce pays. Lorsqu'on sait la problématique communautaire aussi, comment elle s'égrève souvent à la politique.
Donc vous souhaitez que le président Ouattara, le camp du pouvoir, accepte cette main tendue de l'opposition?
Nous pensons les dialogues comme mécanisme de règlement des conflits politiques demeure la vraie voie et la bonne dans laquelle tout le monde devrait s'engager. Maintenant, les partis peuvent convenir de la forme, peuvent convenir du contexte dans lequel cela peut se faire. Mais le maître mot devrait demeurer pour tous les Africains le règlement des questions politiques internes par la voie du dialogue.
Merci, M. Wilondia. On va revenir à Guillaume. Je propose que El Mansour reste sur le sujet de la monnaie. Guillaume, le numéro 2 du PDCI, le professeur Guy Kawé, est en prison, de même que Afi Nguessan. Bédié n'a rien pu faire. Ils ont été arrêtés et condamnés. Que vaut aujourd'hui la parole de Henri Konan Bédié? Est-ce qu'il a le poids et l'influence nécessaire aujourd'hui pour faire fléchir le président Ouattara?
Oui, mais la seule preuve du poids du président Konan Bédié, c'est que lui, il est dehors. Lui qui était pourtant le président du CNT, parce que quand on écoute les autorités ivoiriennes, ce qu'elle reproche notamment à M. Guy Kawé et à Finguessan, aussi à l'ancien ministre Mabri Touakeuse et au directeur cabinet président.
Qui vit aujourd'hui, qui vit caché et qui de sa cachette, bon, a soutenu le discours de M. Bédié.
Il reproche à sa personnalité d'avoir soutenu le CNT. En même temps, celui qui en a été déclaré le président, c'est-à-dire le président Bédié, il est dehors. Ça vous dit quel est son poids. Je vous ai rappelé tout le parcours du président Bédié. Moi, je suis ivoirien, je ne suis pas proche du président Bédié, mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que finalement, il a une forte autorité morale. Et le président Ouattara, dès déjà son discours, après sa déclaration de victoire par le Conseil constitutionnel, c'est lui qui, le premier qui a dit qu'il veut rencontrer le président Bédié. Parce que le pays partait, sombrait dans le chaos.
Mais son poids, est-ce que son poids est-il tel qu'il puisse convaincre son ancien allié Alassane Ouattara d'ouvrir ce dialogue national?
Mais je pense que le président Ouattara n'a même pas le choix. Aujourd'hui, le président Bédié le met devant ses responsabilités. Ou bien il choisit, lui-même qui a dit qu'il choisit, il tend la main au président Bédié pour discuter tout ça, ou bien il est logique avec lui-même. Il a parlé de dialogue sincère dans son discours juste après la promotion de sa victoire. Ou bien il est logique avec lui-même, ou bien il revient et il va porter la responsabilité de tout ce qui va se passer après. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un pays qui a connu des violences majeures dans beaucoup de villes, notamment à Soumouri, à Danko. Donc je pense que le président Ouattara, moi je me dis, tout ce que font les Adjoumani et Konso, les second couteaux du RGP, c'est juste pour monter les enchères.
Mais Guillaume, la question que Liliane vous pose, et moi je vous la repose encore, de quoi est-ce que Henri Konan Bédié dispose aujourd'hui pour contraindre Alassane Ouattara à organiser un dialogue inclusif quand, et Liliane l'a rappelé, le RHDP est clair sur la question, c'est de la provocation et on s'achemine vers l'investiture du président Ouattara pour ce troisième mandat. De quelle carte il dispose aujourd'hui, Konan Bédié?
D'abord, la principale carte, maître, je voulais déjà rappeler, c'est l'autorité morale du président Bédié qui est reconnue partout en Côte d'Ivoire, y compris au RHDP. Aujourd'hui, le président Bédié appelle à des marches pour la paix, selon lui, le dialogue, etc. Le président Ouattara va être investi. Je pense que cette concession, en renonçant au CNT, le président Bédié fait un pas vers lui. C'est à lui maintenant de saisir cette pêche tendue. Mais s'il fait comme si rien n'était, je vous dis qu'il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres manifestations de violence.
Sans transition, Saint-Tiche, dernier sujet.
Oui, nous courons sur le dernier sujet, la monnaie éco, le processus de création de cette future monnaie ouest-africaine suit son cours, en tout cas du côté de la France, parce que les députés ont ratifié cette semaine l'accord de coopération signé entre la France et les pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA donc, il y a un an. Cet accord qui entérine la transformation du CFA en la monnaie éco, la nouvelle monnaie est critiquée dans sa forme et aussi dans son fond, et semble donc toujours d'actualité, même si dans les pays concernés, on a plutôt opté pour une approche qu'on a dit graduelle dans sa mise en œuvre. Nous avons avec nous El Hadj Mansour Samb. Mansour, Vous êtes écrivain et économiste. Je voudrais vous demander déjà, que représente cette étape de ratification de l'accord de coopération dans le processus de création de la monnaie?
Oui, je vous remercie d'abord de l'invitation. Vous savez que la France, depuis le 21 décembre 2019, où à Abidjan, le président Macron et le président Ouattara avaient lancé la nouvelle monnaie ECO. Donc depuis cette date, la France est dans sa faute. Depuis cette date, le cadre juridique est en train d'être mis en place au niveau de la France. Donc ce qu'ils ont fait hier avant, c'est la suite logique de la feuille de route qu'ils sont en train d'appliquer. Vous savez que ce qui s'est passé le 21 décembre 2013, c'était le lancement d'un éco fixe, alors que l'éco fixe n'a jamais été dans l'agenda de la CEDEAO. Dans l'agenda de la CEDEAO, on a été toujours dans un éco flexible. Aujourd'hui, bien vrai que la France est en train de mettre en place sa feuille de route, mais ça, ce n'est pas très important par rapport à la mise en place de l'éco. Parce que pour mettre en place l'éco, c'est une décision des pays de la CEDEAO. Et pour ça,
excusez-moi, El Mansou, pour bien comprendre, donc vous dites que la France met en place son agenda, mais pas celui de la CEDEAO.
Ça. Parce qu'on voit que la France est en train de mettre en place son agenda. C'est normal. Parce que la France est dans ce qu'on appelle l'éco entre guillemets, l'éco UMOA. Parce qu'on savait que l'éco CEDEAO n'est pas fixe. Ce qui s'est passé à Abidjan le 21 décembre 2019, c'était un éco fixe, donc un éco UMOA. Un éco qui sera dans une période fixe avec l'euro, la même parité que l'UMOA. Ça, ce n'est même pas l'agenda de la CEDEAO quand elle mettait en place l'éco.
Mais quand on a deux agendas comme ça, vers où on va finalement? Est-ce qu'on sait clairement où vont les chefs d'État de la CEDEAO puisque 2020 était l'échéance, l'année est terminée, de la création de cette monnaie unique?
Pour savoir que l'échéance était le 1er juillet 2020. Le président Buhari l'a dit. Il a dit que ce qui s'est passé à Abidjan, c'était une demande solitaire de l'UMOA. Buhari dit que qu'est-ce que la France fait dans le processus, alors que depuis le début, la France n'est pas dans le processus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est le premier partenaire de l'UMOA et que la France garantit le CFA de l'UMOA. Aujourd'hui, pour que le franc CFA se sente en écho, la France doit avoir son mot à dire, mais dans le cadre de l'UMOA. C'est ce qui s'est passé au niveau d'Abidjan. Mais au-delà de l'UMOA, il faut savoir que l'éco, ce n'est pas une monnaie de l'UMOA, c'est une monnaie de la CEDEAO. Et qu'aujourd'hui, même si la France est en train de mettre en place son agenda, il faut savoir qu'il n'y aura jamais d'éco sans des critères de convergence que nous partageons ensemble. Aujourd'hui, il y a un pacte de convergence et de stabilité macroéconomique qui a été mis en place. Il faut que ce pacte soit respecté par tous les États de la CEDEAO pour qu'il y ait l'éco. Donc la France est en train d'anticiper parce que la France est dans son cadre juridique, la France est dans ses lois.
Alors, la France anticipe, vous l'avez dit, semble la France déroule son agenda. Mais de l'autre côté, que font les pays qui sont concernés par cette monnaie éco? Est-ce qu'il y a des réformes qui sont en train d'être mises en œuvre? Réellement, pratiquement, est-ce que c'est toujours d'actualité ce débat de l'éco?
Aujourd'hui, il faut savoir que l'entrée en vigueur va être poussée jusqu'en 2025. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un aspect qui est important, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord respecter les critères de convergence de l'éco. On dit que 3% de déficit budgétaire, 10% d'inflation et 110% d'endettement. Aujourd'hui, il faut savoir que le COVID-19 a vraiment massacré tous les critères de convergence. Au niveau de l'UMOA, on a même sauté les CI pour pouvoir financer les économies de l'UMOA. On a dit que les États peuvent aller au-delà de 3%. Du déficit, ils peuvent aller au-delà de 70% de l'endettement. Ça veut dire que ces critères de convergence qui sont obligatoires pour la mise en place d'une monnaie de l'euro, ça veut dire que ces critères ont sauté avec le COVID-19. Aujourd'hui, le COVID-19 a tout déprogrammé. Pour savoir ça. C'est pourquoi, durant le communiqué final du sommet du 57e sommet de la CEDEAO au Niamey, dans ce communiqué, ils ont dit que carrément qu'il va falloir aller au-delà, penser à 2025. Parce qu'aujourd'hui, à cause du COVID, il y a des problèmes. Mais tout ça, ça ne gêne pas la France. Parce que la France est en train de mettre en place son cadre juridique. Il va mettre en place son cadre juridique et attendre que nos pays puissent faire l'Est. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si on ne fait pas attention, l'écho va se mettre en place au niveau de l'UEMOA, alors que l'écho, ce n'est pas une monnaie de l'UEMOA.
Merci beaucoup, M. Mansour. Une réaction sur ce que vient de dire El Mansour. On a l'impression que, voilà, en mettant en place son propre agenda, qui n'est pas celui de l'UEMOA, il y a comme une façon de tuer le projet, de court-circuiter le projet initial qui était la monnaie unique pour la zone CFA-UEMOA. Monsieur Wilandia, très rapidement.
Les francs CFA étaient le produit de l'histoire, bien sûr, mais au moins avec l'écho, là, on est sur la voie d'affirmation de la souveraineté monétaire de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est ce qu'il faut saluer, ce qui va évidemment faciliter aussi une intégration économique et monétaire librement consentie. Nous ne pouvons que saluer ces premiers pas. Je note ici, par exemple, le fait que il n'est plus fait exigence des dépôts de réserve de change sur le compte du Trésor public français. C'est un pas dans la bonne direction.
Mais beaucoup d'experts africains disent que c'est de la poudre aux yeux. Certains parlent même d'autres parlent même de mesures cosmétiques qui ne changent rien fondamentalement.
Je ne pense pas. Je dis bien que ce sont les premiers pas dans la bonne direction. Et le fait que la France ait retiré ou ait décidé de retirer ses représentants et les instances de gouvernance monétaire de la CCAO et la prochaine étape, bien sûr, pourrait permettre peut-être d'atteindre cet écho flottant qui devrait asseoir davantage cette souveraineté monétaire des pays amis.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, je suis désolé de vous interrompre. C'est le temps d'écouter les réactions de nos internautes sur la page Facebook avec Didier Ladislas Landau.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Fin de la coalition FCC Cash, Mac Abdel Villa Ilunga affirme que l'effondrement de la majorité FCC est une victoire pour le peuple congolais. Pour notre internaute du Katanga dans la province du Kasaï, le FCC a manqué l'occasion de se racheter devant le peuple congolais car une réussite du quinquennat de Félix Tshisekedi aurait été en partie attribuée au FCC. De son côté, Séraphin Kabasubabu estime que durant les 18 ans de règne du régime Kabila, le peuple a assez souffert. Notre internaute de Goma, qui définit le sigle FCC comme Félix Champion du Congo, affirme que le président Kabila doit savoir que tout ce qui a un début. Côte d'Ivoire, Bleuyant et Jeanne se demandent pourquoi le pouvoir en place a attendu la fin de l'élection présidentielle pour remettre au président Gbagbo son passeport et quel sera le sort de ce dernier une fois qu'il sera en Côte d'Ivoire. Jean-Maurice Milimounou pense que le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire est un grand pas vers la réconciliation nationale. Passage du franc CFA à l'écho Yougou Wapi Wapi estime que la monnaie constitue un véritable problème pour les pays africains et que le passage à l'écho est une bonne chose. Une fin. Bon week-end à tous.
Merci. Monsieur Wilania, une réponse globale à ces questions. Le FCC a manqué l'occasion de se racheter devant le peuple congolais.
Oui, mais je pense que ce sont des mots sans contenu parce que le FCC, c'est une réalité politique qui est là et avec laquelle il faut faire et qui est réellement tournée vers la population. Je pense aussi que le bilan du président Kabila, il est plus qu'élogieux. Il a réunifié ses pays, il a mis les pays sur les rails de la démocratie avec la régularité des élections et à la clé, l'alternance pacifique.
Merci.
Et, il a créé la stabilité économique et donc tout cela, ce sont des faits qui parlent. Pour le reste, le FCC reste disposé à donner sa pierre de contribution, n'est-ce pas, à l'édification de ce pays avec le pouvoir qui est en place.
Merci beaucoup, Nehemi Mulania Wilonja, ex-directeur de cabinet de l'ancien président Joseph Kabila et coordonnateur du FCC, le Front commun pour le changement en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été notre invité. Merci à El Hadj Mansour Samb, auteur de l'ouvrage « Les limites du plan Sénégal émergent, PSE » et Guillaume Bateau, journaliste politique au quotidien « Notre voix à Abidjan, en Côte d'Ivoire », réalisation de votre émission à Dakar, Patrick Tévy, à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Londo. Votre émission est à retrouver sur nos sites internet respectifs, africaradio.com et bbcafrique.com, et vos commentaires sont très très attendus sur facebook.com/débat bbcafricaradio. Merci à tous, à la semaine prochaine Saint-Tiche.
À la semaine prochaine Liliane, portez-vous bien.
Merci, vous aussi, au revoir.